Pour une dernière fois, avant les fêtes, on a cette chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. On le sait, il y a des achats qui sont faits en ligne maintenant, surtout pour la période des fêtes. Ça a augmenté beaucoup, notamment avec l'arrivée de cette fameuse pandémie il y a 21 mois de ça déjà. Les statistiques ont augmenté, hein. On rapporte que 82 % des Canadiens ont fait des achats en ligne en 2020. C'était 73 en 2018. Puis en dollars, là, c'est 84,4 milliards de dollars qui a été dépensé par les Canadiens pour les achats en ligne. Et pour nous parler des achats en ligne, des risques associé à ça. Il y a Geneviève Graton qui est directrice et notaire au Centre de justice de proximité de l'Outaouais qui est avec nous. Geneviève, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Donc, oui, des chiffres impressionnants, mais est-ce qu'il y a des risques qui sont associés à cette façon de faire des achats?
Ben oui, il y a plusieurs risques lorsqu'on fait des achats en ligne. Ils peuvent tous vous exposer à de la fraude si vous ne faites pas attention. Les achats en personne vous donnent une idée avec qui vous faites affaire, alors que les achats en ligne, c'est une autre histoire. Ils offrent moins d'indices sur la fiabilité du site ou du vendeur. Bien entendu, lorsqu'on fait des achats par Internet, il faut être plus prudent et idéalement, vous effectuez une recherche sur le service ou le bien que vous souhaitez acheter ou le commerçant avec lequel vous voulez faire affaire.
Puis est-ce qu'il y a quelques éléments là, auxquels, en tant qu'acheteur, on peut porter attention pour nous aider à diminuer les risques qui sont associés à ces achats en ligne?
Oui, tout à fait. Bien, premièrement, il faut porter attention sur le site web puis s'assurer qu'il est sécuritaire. Il est important d'apprendre comment détecter la fraude, par exemple. Les prix sont trop beaux pour être vrais. Hein? On en connaît quelques sites comme ça. Où le site web il est mal conçu, où on vous demande des informations bancaires avant l'achat. Deuxièmement, il faut porter attention aux renseignements personnels demandés et pas divulguer plus que ce qui est nécessaire pour effectuer votre achat. Ça va vous éviter de tomber dans le piège d'une arnaque en ligne. De manière générale, là, un commerçant ne peut pas vous demander de communiquer votre numéro d'assurance sociale. En fait, jamais vous allez communiquer votre numéro d'assurance sociale. Mais je vous dirais de faire attention et pas donner votre date de naissance non plus. Troisièmement, il faut vérifier si le commerçant utilise un service fiable de paiement en ligne. Pour savoir si c'est le cas, on peut regarder si une icône de petit cadenas. Vous savez, le petit cadenas, je suis certaine que vous l'avez déjà vu en quelque part. Là. Le petit cadenas fermé, il apparaît près de la barre d'adresse au bas de la page, puis ça constitue un bon signe. De plus, si l'adresse du site débute par https://2.2/, c'est aussi une bonne indication de la fiabilité du site web.
OK.
C'est important d'être vigilant au moment de payer. N'oubliez pas que la loi sur la protection du consommateur impose des obligations aux commerçants. Donc, ça, c'est la LPC. Là. Je vais le répéter à quelques reprises dans notre conversation. Mais donc, avant de payer, le commerçant a l'obligation de vous communiquer les prix du bien, les taxes, la devise, si ce n'est pas canadien, et tous les autres frais.
Des achats en ligne, on peut en faire sur différentes sortes de sites. Est-ce qu'il y a des différences entre des achats qu'on ferait sur Kijiji ou sur eBay, puis des achats en ligne chez un commerçant directement?
Ah oui, ça c'est une excellente question, parce qu'il existe vraiment une grande différence entre les deux situations. D'un côté, un achat qu'on fait via Kijiji, eBay ou Marketplace, ça a lieu entre deux personnes physiques, donc nous et le vendeur. Le contrat est régi par les dispositions générales civiles du Québec. C'est pas régi par la LPC parce que c'est un particulier.
Okay.
De l'autre côté, on a un achat qui est fait en ligne auprès d'un commerçant puis on va bénéficier de certaines protections que la LPC, donc la loi sur la protection du consommateur, prévoit. Ces protections-là sont prévues dans la loi, dans la section qui traite des contrats conclus à distance.
Donc, selon ce que j'en comprends, là, il y a des obligations particulières pour les commerçants qui font affaire en ligne. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples?
Ah, ben oui, je vais vous en donner deux. Premièrement, avant la conclusion du contrat, le commerçant doit fournir au consommateur des informations de base comme ses coordonnées, donc son adresse courriel et son numéro de téléphone, celle de son service à la clientèle. Il doit également fournir plusieurs informations sur la transaction à venir, comme la description du bien en vente, le prix du bien, ainsi que les taxes et frais connexes le cas échéant, les modalités de paiement possibles, etc. La description du bien en vente là, peut comprendre les caractéristiques du produit, sa taille, sa couleur, son poids, ses matériaux. Puis l'état du produit peut aussi faire partie de cette description-là, donc s'il est neuf, dans son emballage original, remis à neuf ou usé. Ensuite, une copie du contrat doit être transmise au consommateur par le commerçant dans un délai de 15 jours lorsque le contrat est conclu. Je suis certaine, Sébastien, que ça va vous sonner une cloche si je vous parle du numéro de confirmation et du document avec l'option d'impression qui apparaît dès que vous avez terminé votre transaction.
Donc, c'est ce contrat-là, cette espèce de validation, ce numéro de confirmation fait partie là, de cette copie du contrat qui nous est transmis. Là.
Tout à fait. Puis, vous recevrez ensuite la confirmation généralement par courriel. Mais c'est toujours une belle mesure de sécurité lorsque le contrat apparaît suite à la transaction de l'imprimer au cas où il y aurait un écueil puis que le courriel ne se rendrait pas jusqu'à vous.
Est-ce que la situation va être différente si on achète un produit en ligne d'un commerçant qui est à l'extérieur du Québec?
Oui, la LPC prévoit qu'un contrat conclu à distance il est réputé être conclu au domicile du consommateur. C'est assez technique ce que je vais vous expliquer, là. Mais la situation reste la même si le contrat est conclu au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, dans la mesure où le consommateur, lui, il habite au Québec, il est domicilié au Québec.
Okay.
Le contrat, il est donc réputé être conclu au Québec et la LPC s'applique. Je vais apporter quelques nuances plus loin, là, mais pour cette raison-là, le consommateur pourra bénéficier des avantages que la LPC offre et il pourra même poursuivre le commerçant dans les tribunaux du Québec. Dans les faits, c'est un peu plus difficile à faire, appliquer un jugement qui serait en notre faveur. Si vous avez perdu 100, 150 $ dans une transaction, il va vous en coûter beaucoup plus pour faire les démarches judiciaires. Puis les chances que votre vendeur situé ailleurs qu'au Canada donne jamais suite au jugement sont assez grandes, là. Il faut également garder en tête que si vous faites affaire avec un commerçant situé hors du Canada, il est possible qu'on soit appelé à payer des frais douaniers. Moi, par exemple, là, je m'attendais pas du tout à ce que la première fois que j'ai commandé des cartes de Noël d'un autre pays, elles sont arrivées et j'ai eu des frais douaniers assez importants à payer lors de la livraison. Puis finalement, mes cartes, ils m'ont doublé. Ils m'ont coûté le double de ce que j'avais envisagé. Donc, l'économie n'était pas tant intéressante au final.
Non, faut bien y passer, ça c'est certain. Une fois qu'on a conclu notre achat en ligne, est-ce que c'est possible de l'annuler? Parce qu'on parlait d'un contrat tantôt, là. Est-ce que c'est possible d'annuler ça?
Oui. Dans la LPC, on ne parle pas vraiment d'annulation, mais on parle de la possibilité de résoudre un contrat conclu en ligne avec un commerçant. Donc, on va utiliser le mot « résoudre ». Si vous le voulez bien. Donc, la résolution du contrat produit presque les mêmes effets que l'annulation du contrat.
C'est quoi ces effets-là, justement, de la résolution du contrat?
Vous avez raison de me poser la question. Là, les parties au contrat sont remises dans la situation qui existait avant la conclusion de ce contrat-là. Okay. La résolution entraîne donc un effet rétroactif. Donc, les parties doivent restituer les prestations reçues dans la signature du contrat. Ce que ça veut dire, c'est que vous retournez vos biens et on vous rend votre argent.
Okay, oui, on peut le faire, mais dans quelles circonstances est-ce que c'est possible de faire résoudre un achat qu'on a fait en ligne avec un commerçant?
Bien, quelques exemples qui peuvent permettre la résolution d'un contrat fait en ligne avec un commerçant. Donc, si le commerçant ne vous a pas envoyé une copie du contrat dans les 15 jours suivant l'achat du bien, si vous avez reçu le contrat dans les 15 jours suivant l'achat, mais que le contrat ne contient pas tous les renseignements obligatoires et si vous n'avez pas reçu le bien dans les 30 jours suivant la date de l'achat.
Puis, est-ce qu'il existe une manière particulière pour procéder avec cette fameuse résolution de contrat-là?
Oui, là encore, là, c'est assez technique. Là. Mais pour faire résoudre un achat, le consommateur doit d'abord faire parvenir un avis au commerçant dans lequel il explique qu'il met fin au contrat d'achat pour une ou plusieurs raisons. Il est souhaitable d'envoyer cet avis-là par un moyen qui prouve que vous l'avez bel et bien envoyé. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser un courrier recommandé. L'envoi de l'avis est suffisant pour résoudre le contrat d'achat ainsi que les autres contrats qui ont été conclus en même temps. Donc, par exemple, si vous avez pris une garantie sur le bien que vous avez acheté, par exemple, un ordinateur. Le consommateur doit ensuite retourner au commerçant le bien dans l'état où il l'a reçu dans les 15 jours suivant la communication de l'avis. Si la livraison a été faite après l'envoi de l'avis, il faut retourner le bien dans les 15 jours suivant la livraison. Ça devient vraiment technique.
Bon,
moi,
oui.
je vous invite à, à, à nous appeler dans ce temps-là pour qu'on puisse vous guider. Le commerçant doit rembourser le consommateur dans les 15 jours suivant l'avis. Les frais de retour sont à la charge du commerçant.
Puis il se passe quoi si jamais le commerçant refuse de rembourser le consommateur dans ces fameux 15 jours-là?
Bien, la loi sur la protection du consommateur, la LPC, prévoit quelque chose d'assez intéressant en cas de refus. Lorsque vous achetez un bien ou un service en ligne avec une carte de crédit, vous obtenez une protection particulière qu'on appelle la rétrofacturation.
Mm-hmm.
Je pense que c'est un mot qui vaut cher au Scrabble. Cette protection-là, là, elle vous permet d'avoir donc d'être remboursé par votre institution financière lorsque le commerçant refuse de le faire dans les 15 jours qui suivent l'envoi de votre avis. Vous avez donc la possibilité de vous adresser à l'institution financière directement qui vous a remis votre carte de crédit afin de vous faire rembourser tous les frais que vous avez payés avec la carte lors de l'achat en ligne. Donc, c'est possible grâce à la rétrofacturation.
Puis pour s'adresser à l'institution financière qui nous a remis notre carte de crédit, est-ce qu'il y a des règles ou conditions à respecter?
Avant de faire votre demande de rétrofacturation, vous devez d'abord attendre que le délai de 15 jours auquel le commerçant a droit soit expiré, bien sûr. Après l'expiration de ce délai-là, vous avez 60 jours pour vous adresser à votre institution financière afin de faire la demande de rétrofacturation. Donc, okay. Ça vous donne quand même un bon délai.
Mm-hmm.
Votre demande doit être faite par écrit, à l'institution financière qui vous a remis votre carte de crédit. Puis, elle doit obligatoirement contenir votre nom, le numéro de la carte de crédit, sa date d'expiration, le nom du commerçant, la date de l'achat, le montant total payé avec votre carte de crédit et les sommes que le commerçant est tenu de vous rembourser. La description des biens et les motifs pour lesquels vous avez annulé votre contrat.
Et est-ce que des règles s'appliquent à tous, ces règles-là s'appliquent à tous les types d'achats conclus en ligne avec un commerçant, là?
Non. Il existe certaines exceptions, comme par exemple l'achat d'un bien susceptible de dépérir rapidement. Là, vous comprendrez si vous achetez de la nourriture en ligne, par exemple, ça va être exclu parce que probablement que la nourriture sera sera plus vraiment en bon état pour être envoyée. L'achat conclu à l'occasion d'une vente aux enchères ou l'achat d'un billet de loterie.
On a donné plein de délais, de durée, de façon. Si les auditeurs sont à l'écoute, ont des questions, là, on peut communiquer avec vous au Centre de justice de proximité de l'Outaouais?
Bien sûr, ils peuvent nous joindre au téléphone au 819-646-000 pour obtenir davantage d'informations ou se faire de rafraîchir l'information là, parce que je vous ai donné plusieurs détails techniques.
Oui.
Je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Puis, vous pouvez bien sûr consulter notre site web justicedeproximité.qc.ca. Cependant, comme vous l'imaginez, notre équipe va se reposer aussi pendant le temps des fêtes et nous reprendrons du service le 4 janvier.
C'est correct, ça, on va être correct, on va rentrer dans le délai de 15 jours si on a des questions.
Oui, c'est ça.
Geneviève Graton, directrice et notaire au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci pour ces précieux conseils et de joyeuses fêtes.
Ah, de joyeuses fêtes à vous aussi et à toute votre équipe, Sébastien, et vos auditeurs, bien évidemment.